18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème l'importance de la surveillance parentale dans les aires de jeu des enfants. Les grandes vacances scolaires s'installent et dureront plusieurs mois. Et pendant ce temps, loin de l'école, les enfants se retrouvent dans plusieurs activités ludiques, soit sur les écrans, télévision, téléphone ou tablette, ou des jeux collectifs parfois intenses et physiques. Ce qui n'est pas mauvais en soi, car selon les spécialistes, le jeu permet le développement intellectuel, social, sensoriel, moteur et favorise l'apprentissage du langage. Plus tard, il permet à l'enfant de suivre une logique, un raisonnement et lui donne des règles, un but précis et l'incite à s'impliquer dans celui-ci et atteindre des objectifs. Cependant, un article de janvier 2023 du Réseau mondial de lutte contre les contenus d'abus sexuels pour mineurs en ligne revient sur l'importance de la surveillance parentale qui s'avère être un facteur déterminant de la sécurité numérique des enfants. Toujours selon cet article, les enfants dont l'activité en ligne est surveillée par leurs parents sont moins susceptibles d'être victimes d'un délinquant de toilettage en ligne. Pour répondre à nos questions, nous avons convié autour de la table et au bout du fil Madame Falmata Kiari, qui est conseillère pédagogique à la retraite et mère de famille. Bonjour Madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Nous avons avec nous Monsieur Boubacar Abdou, il est enseignant. Bonjour Monsieur Boubacar.
Bonjour, le plaisir est pour nous.
Au bout du fil, nous prendrons dans quelques instants Monsieur Ibrahim Banya, il est sociologue. Au micro, Rabia Mekano pour la modération. De façon générale, pour les enfants de moins de 6 ans, les chercheurs définissent la surveillance en termes de comportements spécifiques qui montrent qu'on s'occupe de l'enfant, qu'on l'observe, qu'on l'écoute. La proximité est particulièrement importante pour la sécurité des jeunes enfants de moins de 6 ans, car ils agissent souvent rapidement et de façon imprévisible, ce qui augmente les risques de blessures. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons de la surveillance parentale dans les aires de jeu de façon globale. Nous allons commencer avec vous, Madame Falmata. Vous êtes éducatrice, vous êtes maman. Dites-nous ce que représente cette période de grandes vacances pour vous, parents. Et comment appréhendez-vous cette période?
Et d'abord, je vous remercie, le studio Kalangou. Et vous-même, journaliste, de nous avoir conviés sur ce plateau pour nous exprimer. Donc, vraiment, cette période est une période de stress pour nous, parce que nous, parents, on n'est pas là souvent pour surveiller ses enfants. Et il faudrait bien qu'on les confie. Et il y a des espaces de jeu à la maison, dont vous avez cité plus haut. Et il faudrait vraiment gérer cet espace-là. Donc, pour nous, il faut qu'on nous seconde à la maison. Je ne veux pas dire qu'il faut une bonne ou un frère ou une sœur. Il faut bien chercher quelqu'un de sérieux pour ces enfants-là qui n'ont pas conscience du danger qu'ils courent dans ces espaces de jeu et ce qu'ils apprennent.
Oui. Alors, je rappelle à mes auditeurs que nous avons au bout du fil Monsieur Ibrahim Banya, il est sociologue. Et Monsieur Banya, notre première question pour vous, c'est au vu de la fréquence à laquelle les enfants se retrouvent de façon routinière, hors de la vue des personnes qui les surveillent, lorsqu'ils sont chez eux, selon vous, à quoi faut-il faire attention?
Les enfants, d'abord, ce sont des êtres en développement, en devenir. Ils sont très fragiles sur le plan psychique, donc ils sont malléables à merci, ils sont manipulables, ils sont facilement influençables. Donc, en tant qu'aîné, en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est à nous de veiller sur eux, surtout en ces temps qui courent avec les vacances scolaires. Donc, les enfants, quand ils se retrouvent à la maison, ils peuvent sortir sans que les parents ne sachent là où ils sont. C'est pourquoi il est très important pour nous en tant que parents de surveiller nos enfants même à la maison, de surveiller les enfants en dehors de la maison, une fois qu'ils sont dehors, chez les voisins, chez les amis, parce qu'ils peuvent se mettre en interaction avec d'autres enfants avec qui ils n'ont pas la même éducation, la même moralité. Donc, si les enfants, ces enfants se trouvent être avec une mauvaise compagnie, en dehors de tout ça, il y a aussi les accidents de circulation. Donc, vraiment, pendant ces vacances, il est de notre devoir de veiller beaucoup sur nos enfants, savoir là où ils vont, ce qu'ils font en dehors de la maison, quelles sont leurs fréquentations, leurs fréquentations, quels sont leurs lieux de rencontre avec autres enfants du quartier. Donc, tout cela.
Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques chez l'enfant qui démontrent qu'il a vraiment besoin de surveillance? Est-ce qu'il y a des enfants qu'on doit particulièrement surveiller, selon vous?
Oui, selon moi, il y a des caractéristiques physiques et même morales, quoi. Mm-hmm. C'est tout moral, parce qu'un enfant qui est toujours seul à la maison, qui n'a pas de frère, qui n'a pas de soeur, qui est toujours seul à la maison, qui est trop timide, ces genres d'enfants, vraiment, il faut les surveiller. Ouais. Il faut les surveiller parce que la timidité d'un enfant, la plupart du temps, en Afrique surtout, elle n'est pas bien interprétée, quoi. Mm-hmm. Elle n'est pas très bien perçue parce qu'un enfant, on veut qu'il soit quelqu'un de curieux au regard de son âge, un enfant, quelqu'un de bavard. Mais quand surtout un enfant il est seul, il est solitaire, donc quand il sort, il faut vraiment veiller sur lui, quoi. Donc il faut veiller sur ce genre d'enfant. Mais néanmoins, c'est pas pour autant dire que les enfants qui sont bavards ou curieux ne sont
turbulents,
pas orientables.
Oui.
Ou turbulents, oui. Les enfants turbulents surtout, parce que il y a des enfants qui naissent vraiment très turbulents. Ça, c'est une caractéristique intrinsèque à eux. Ouais. Et vraiment, il faut veiller sur ce genre d'enfants-là. Parce que quand l'enfant sort, l'enfant, il est très turbulent. Il peut être amené à commettre à être très violent à l'encontre de ses camarades de la même classe d'âge. Et il peut commettre l'irréparable, quoi.
Il faut
le surveiller pour qu'il ne soit pas en contact avec les armes blanches. Il faut le surveiller pour qu'il ne fasse pas des jeux très violents avec les autres camarades.
Mm-hmm,
ce genre d'enfants, ils sont à surveiller de près.
Donc, les enfants vraiment timides et hyperactifs, les parents doivent prêter encore plus attention
à
ce qu'ils font et avec qui ils sont. Voilà. Là, nous allons voir avec M. Boubacar Abdou, qui est enseignant. Nous allons nous appuyer sur votre expérience, tout ce temps que vous passez avec beaucoup d'enfants. Et selon vous, quelles sont les méthodes de surveillance que l'on pourrait utiliser à la maison avec de jeunes enfants pour canaliser leur énergie? Monsieur Boubacar.
Bien, merci, Ravi. Mm-hmm. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios aujourd'hui pour parler d'un thème aussi important que celui de la surveillance parentale. Avant de répondre donc à votre question, je crois qu'il est bon de définir d'abord ce que c'est que être parent. Être parent, indépendamment de faire boire, manger, habiller l'enfant, c'est donc tout ce qui rentre dans le cadre de la sociabilité, c'est-à-dire ce qui permet à l'enfant donc de devenir adulte et donc de s'assumer en conséquence. Et c'est là le principal enjeu justement dans l'éducation de l'enfant, surtout lorsque le plus souvent, en milieu urbain particulièrement, les parents n'ont pas toujours la possibilité d'être avec les enfants en permanence. C'est un problème, c'est un fait. Et c'est pour cela que l'on a une diversité, comme on appelle ça, de statut chez les enfants dans nos écoles, dans nos classes. Lorsqu'on les voit, on voit tout de suite quel type d'éducation, n'est-ce pas, l'enfant là a eu à la maison.
Dans ces écoles, dans ces classes où vous retrouvez au quotidien avec des enfants qui viennent de tout.
De tous les horizons,
de tous les horizons
et de toutes les éducations aussi.
De toutes les éducations, mais quand même, vous arrivez à tracer une ligne, à mettre de l'ordre, à les canaliser. Comment vous vous y prenez et comment vous pouvez partager cette expérience avec les parents qui nous écoutent?
Tout dépendra, dépendra de l'éducation que lui-même, en tant qu'enseignant, il a reçue à la maison. Je pense bien qu'il est important que l'éducateur, en tant que tel, ait suffisamment.
Qu'il soit parent,
qu'il soit parent ou autre,
oncle,
Donc de se dire que, n'est-ce pas, l'enfant appartient à la société, il appartient à la communauté, et pour ce faire, il y a des exigences sociales, il y a des exigences morales auxquelles l'enfant doit se plier et qui doit lui permettre justement, n'est-ce pas, de rester dans le cadre de la communauté, dans le cadre de la société. Voilà donc ce que l'enseignant devrait faire lorsqu'il est en face, n'est-ce pas, de cette population d'élèves. Une quarantaine, une cinquantaine, de sensibilités différentes, de familles différentes. Avouez que c'est difficile quelquefois de canaliser tout cela, mais l'enseignant arrive à le faire lorsque il est suffisamment doté de moyens pédagogiques qui puissent leur permettre de faire comprendre aux enfants ce qu'ils veulent réellement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sortons du cadre strictement de la transmission de la connaissance pour aller vers la formation de la personnalité de l'enfant. Ça, c'est important. Et ça veut dire tout simplement que on n'est pas seulement enseignant, on est aussi parent pour montrer qu'à un certain moment, il vaut mieux montrer que, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence entre la famille et l'école.
Ouais.
Donc, le lien-là, il faut l'établir pour que l'on ne se retrouve pas dans deux mondes différents.
Oui, là, c'est à l'école.
C'est à l'école.
Et quand c'est à la maison, comment?
Quand c'est à la maison, c'est aux parents de le faire.
Oui.
C'est aux parents de le faire. Et lorsque le parent ne s'assume pas dans ces conditions-là, il est difficile pour l'enseignant de ramener l'enfant sur la voie. C'est très difficile.
Oui,
l'enseignant n'est que le complément de la famille. L'école n'est que le complément de la famille. C'est vrai, c'est une continuité, mais c'est le complément de la famille. L'école complète l'éducation familiale ou l'éducation parentale.
Donc, plus tard, nous verrons si vous avez quand même quelques clés, quelques secrets à partager avec les parents qui se retrouvent débordés par ces enfants hyperactifs.
On va quand même pouvoir proposer, de par l'expérience de père, l'expérience de père également, l'expérience d'enseignant, on verra bien ce que, n'est-ce pas, l'on peut faire à notre niveau.
Voilà, ok. Madame Falmata, dans la pratique au quotidien, comment se fait cette surveillance? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout en milieu urbain, les parents n'arrivent pas à passer assez de temps avec les enfants pour cet encadrement. Donc, comment ça se fait dans la pratique de tous les jours? Comment vous vous y prenez?
Et si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas disponible pour ces enfants, il faudrait vous faire seconder par des gens sûrs. Et souvent, les bons ne font même pas l'affaire. Pas du tout, parce que ces bonnes n'ont pas reçu de rudiments d'éducation, comment gérer les enfants, comme les maîtresses des jardins d'enfants.
Oui.
Donc, il faudrait les faire seconder par un membre de la famille. On a vu des bonnes inexpérimentées qui viennent directement du village. L'enfant a chaud, elle a ouvert carrément le frigo, elle a mis l'enfant dans le frigo. Oui. Et vous savez la suite. Donc, vous voyez, elles n'ont pas de formation, ces femmes-là, ces bonnes sur lesquelles on compte. Donc souvent, ce sont des illettrés qui n'ont jamais été à l'école. Évidemment, il y a eu maintenant une vague de bonnes. Ce sont des filles qui ont été à l'école et qui se font des bonnes pendant les vacances pour gagner de quoi payer leur école.
Mm-hmm.
Peut-être, mais à la rigueur, il faudrait les faire seconder par un membre de la famille, un enfant qui est en vacances. Et ce que j'attire l'attention, il ne faut jamais mettre un garçon, même si c'est votre sœur, même si c'est sa sœur, garder les filles. Il faudrait éviter le contact entre un garçon de 15-18 ans avec des fillettes de 3 à 4 ans. Il faudrait les faire encadrer par des filles. Il vaut mieux les faire encadrer par des filles que les faire encadrer...
Les petites filles doivent être surveillées par
des filles.
Un peu plus grande.
Et vice-versa. Les filles, normalement, elles font l'affaire. Mais évitez de responsabiliser un garçon, même si c'est son frère, de garder les filles.
Ouais.
C'est très dangereux. On a vu ce qui est arrivé dans les maternités et autres, et des viols par-ci, par-ça, des petites filles, même des bébés. Hein.
Ouais, ouais.
C'est arrivé à Niamey, au Niger et en général à Niamey.
Ouais.
Donc, il faudrait chercher la bonne personne qui est vraiment aguerrie, qui s'y connaît en matière d'enfants. Parce que hier, moi, j'ai vu des petites filles de 5-6 ans monter des poteaux électriques dans les quartiers, les poteaux en ciment. Et
ouais.
Si elles atteignent le gros calibre, vous voyez ce que ça va donner.
Ouais.
Donc, vous voyez, il faut une surveillance. Il faut une surveillance. Et dans les espaces de jeu, comme les ballons et autres, ils se bagarrent. Les grands mangent les petits, comme on dit. Il y a des grandes bagarres entre eux. Il faudrait surveiller. J'étais un coup d'œil dehors.
De temps en temps.
Ouais. Parce qu'il y a des disparitions d'enfants, il y a des ceci, il y a des voitures qui vont venir, il y a des motos. Et vous savez, les jeunes maintenant, ils roulent à tombeau ouvert. Les voitures, même pour prendre un virage, ils ne savent pas que dans le code, il faut ralentir, regarder à gauche, à droite. Ils viennent rentrer dans les virages à tombeau ouvert et ils peuvent rentrer dans les... ramasser ces enfants-là. On a vu même à la mosquée, des mosquées aériennes où des voitures même sont venues ramasser des adultes pendant le carême et autres. Donc, vous voyez, il faudrait une surveillance. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance et sortir. Mettez-les dans des mains sûres avant. Et appelez par téléphone de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe à la maison ?
Savoir si tout va bien à
la maison. Si tout va bien à la maison.
Oui. Alors, Madame Falmata, nous retenons bien que les frères et les grandes sœurs et les grands frères ne sont pas toujours les personnes idéales pour surveiller les plus petits. Alors, vraiment, comme vous l'avez dit, il faut vraiment avoir à l'esprit cette surveillance qui doit être faite par quelqu'un d'aguerri, une personne qui s'y connaît en enfant, comme vous l'avez dit.
Et avec le téléphone mobile, appeler de temps en temps à la maison pour voir si tout va bien.
Si tout va bien.
Ou pas.
Alors, nous revenons juste après une petite pause. Dans la seconde partie de ce forum, nous parlerons de l'importance de la surveillance parentale face aux écrans en tout genre. Car, si pour certains enfants, le meilleur passe-temps, ce sont les jeux collectifs à l'extérieur, pour d'autres, c'est les écrans, téléphones, tablettes, télévisions, PlayStation, des outils pour lesquels les spécialistes s'accordent sur l'importance de leur utilisation, mais rationnelle chez les enfants, et d'une supervision parentale. Une pratique excessive peut avoir des conséquences sur le développement du cerveau et de l'apprentissage des compétences fondamentales. Les enfants surexposés aux écrans ont plus de risques de souffrir d'un retard de langage que les autres. Ça, c'est entre autres les conséquences d'une surexposition aux écrans. Monsieur Ibrahim Bagna, selon vous, pourquoi la surveillance parentale est-elle si primordiale face aux écrans de nos jours?
Face aux écrans de nos jours, la surveillance parentale, elle est vraiment fondamentale. Elle est vraiment fondamentale en ce sens que les outils de technologie, là, sont devenus monnaie courante. Et dans toutes les familles, presque dans toutes les familles, en tout cas en milieu urbain, vous avez les parents qui ont leurs appareils, vous avez dans quelques ménages, les enfants même qui ont leur propre appareil cellulaire. Donc à partir des appareils cellulaires, les enfants, ils sont tellement curieux au point où ils maîtrisent, ils ont plus la maîtrise de ces appareils que nous qui sommes leurs parents. Donc, ils peuvent télécharger des applications qui peuvent être nuisibles et qui peuvent influencer négativement qui peuvent les influencer négativement.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qui les amenant à adopter un comportement qui jure avec nos valeurs et nos mœurs.
Oui.
Et les enfants, ils peuvent télécharger des applications alliées avec la pornographie.
Oui.
Ils peuvent charger des applications en lien avec les violences physiques. Donc, vraiment, les enfants sont exposés. C'est pourquoi il est de notre devoir en tant que parents de veiller sur l'utilisation de ces portables.
Oui.
En fait, ce n'est pas l'utilisation des appareils qui cause le problème, mais la manière pour les enfants de les utiliser.
Oui.
Mmh. Est-ce que les enfants utilisent ces appareils pour leur propre culture générale? Est-ce que ces enfants utilisent ces appareils pour pouvoir relever les défis du scolaire?
Oui.
C'est ça. Si ces enfants utilisent les appareils pour des recherches, ils rentrent dans les moteurs de recherche, s'ils rentrent dans des applications en lien avec la géométrie, en lien avec les calculs mathématiques, ça va. Mais si, en dehors de tout ce qui peut contribuer à son épanouissement et à son évolution scolaire, tant que l'enfant est toujours câblé sur un appareil, sur les applications qui incitent à la violence, à la pornographie, en tout cas, il risquerait d'être influencé et de changer de comportement. Et il va vraiment finir par trouver l'ordre social. Donc, c'est pourquoi vraiment nous devons veiller sur l'utilisation de l'appareil, des appareils technologiques par les enfants.
Maintenant, merci M. Ibrahim. Nous allons revenir vers Mme Falmata qui est ici avec nous. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de contenu que doivent redouter les parents dans les écrans, ou que ce soit à la télé ou dans les téléphones? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Et comment vous y êtes prise?
Bon, pour les contenus, nous, on préfère censurer. Et okay. Lors de du renouvellement à la télé où on va...
De l'abonnement.
Mm-hmm. Et on choisit les chaînes.
Okay.
Parce que les films obscènes, les trucs obscènes, on censure, on choisit nos chaînes. Par exemple, pour les petits, on va mettre les bandes dessinées, comme Fidélité, qui font passer des bandes dessinées. Et pour les grands, peut-être les Canal 3 ou quelque chose où il y a des bons films, ou bien Espérance, etc., etc. Donc, et même sur l'écran, c'est écrit interdit à moins de 10 ans ou bien de 18 ans.
Oui.
On met les interdits.
Oui.
Donc, vous savez à quoi vous faites affaire. Eux-mêmes, ils ne sont pas bêtes, ceux qui programment ces films-là ou bien ces bandes dessinées. Donc, on choisit. Il faudrait choisir et surveiller. Moi, j'ai un petit qui me réveille à 2 heures du matin pour dire de lui mettre bande dessinée.
Un dessin animé.
Dessin animé à 2 heures du matin pour un petit.
Ouais.
Mais c'est grave. Donc, vous voyez, tellement ils sont subjugués par ce qui se passe.
Ouais.
Donc, il faut choisir, il faudrait censurer. Et on a été vraiment victime de beaucoup de choses. Des films, des choses violentes et autres. Les enfants, le matin, ils exercent, ils essaient de répéter la même chose. Ce n'est pas bon. On a été confrontés à ce genre de situation.
Monsieur Boubacar, on revient vers vous. Vous êtes enseignant. Nous revenons vers vous. Nous nous inspirons toujours de votre expérience avec les enfants. Est-ce que c'est possible pour les parents de mettre en place des activités, joindre l'utile à l'agréable, comme on le dit, à la fois ludique et instructif? Est-ce que vous avez des tuyaux comme ça à proposer aux parents pour que les vacances soient aussi... qu'ils soient bien occupés et pourquoi pas préparer l'année qui va commencer?
Je vais vous décevoir.
Mm-hmm.
En vous disant tout de suite qu'il est difficile en milieu urbain, pendant les vacances, de suivre les enfants. Un, pour les plus petits d'abord, même lorsque l'on choisit par exemple les chaînes de télévision qu'ils doivent suivre, il y a quelquefois des images qui échappent à votre contrôle, surtout lorsque vous n'êtes pas permanemment à la maison. Il y a des images qui peuvent être diffusé par certaines chaînes qu'on ne peut pas tout de suite interdire à l'enfant parce qu'on n'est pas là pour le faire. Lorsqu'il s'agit des portables pour les plus grands, je vais avouer tout de suite que j'ai des difficultés, moi personnellement, à la maison, de savoir ce que mes propres enfants font avec les portables. Parce qu'ils connaissent mieux la structure de ces appareils-là que les parents eux-mêmes. Ils savent mieux les manipuler que les parents. La seule chose qu'il est possible de faire pour un parent, c'est d'empêcher à ces enfants-là d'avoir à utiliser certains appareils portables. Mais lorsqu'on ne les interdit pas, on ne peut pas également pouvoir interdire la façon de les utiliser.
Ouais.
De la même manière que les images à la télévision sont difficilement contrôlables pour les parents. À moins que l'on ne choisisse simplement des chaînes de divertissement. Même là, le risque est toujours là. D'avoir des images qui ne sont pas acceptées dans notre communauté, par exemple.
Oui.
Et là, que faire? Alors donc, c'est ça la question, fondamentalement. Que faire? Que faire? Empêcher carrément, à un certain moment, lorsque vous êtes absent de la maison, d'ouvrir la télévision. Peut-être proposer des jeux essentiellement ludiques aux enfants. Mais la télévision, on ne peut pas avoir une emprise sur les enfants parce que là, je vous dis que la possibilité est nulle. Pour les appareils photo, la possibilité également est nulle.
Ouais.
Presque.
Ouais. Pour les téléphones portables.
Oui, c'est presque.
Alors là, vous venez juste de proposer des activités à la fois ludiques et instructives. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités à proposer aux enfants. Je reviens vers vous, Madame Chiari. Mais avant cela, Monsieur Boubacar, est-ce que vous pouvez nous proposer des activités pendant les vacances que les parents peuvent proposer à leurs enfants, qui peuvent les préparer
Oui, ça c'est possible, c'est possible. Mais lorsque c'est strictement dans le cadre familial, au plus petit, un petit ballon, un appareil, comment on appelle ça, une tablette, sur laquelle on lui propose un petit jeu de jeu ludique. D'accord. Pour les plus grands, le ballon aussi peut servir dans la maison. Lorsque la cour est plus grande, il va jouer avec son ballon. Et s'il y a une petite bibliothèque de lecture, on lui propose, n'est-ce pas, des textes, n'est-ce pas, qu'il peut exploiter et l'apprendre petit à petit, n'est-ce pas, à s'intéresser véritablement à la lecture ou alors à se débrouiller seul à la maison, même à l'absence des parents. Voilà ce que l'on peut proposer. Mais lorsque c'est en dehors de la maison familiale, c'est difficile de contrôler l'enfant parce que il rentre en contact d'abord avec des enfants avec lesquels ils n'ont pas la même éducation. Il rentre en contact avec des enfants qui ont des comportements contraires aux valeurs que, n'est-ce pas, qu'ils soient inculqués à la maison.
Mm-hmm.
Deuxièmement, c'est que le plus souvent, la violence a tellement intégré certains de nos comportements que lorsque l'enfant sort, c'est toujours avec des risques.
Oui.
C'est toujours avec des risques. Et lorsqu'il sort pour jouer au football, par exemple, au jeu collectif avec les autres camarades, la sécurité n'est pas garantie. Or, la meilleure socialisation, c'est d'abord le contact avec les autres. Si en milieu rural, cela est possible, en milieu urbain, c'est difficile. C'est difficile. Donc, le risque est là pour les parents qui doivent être, en principe, toujours à côté des enfants, parce que c'est cela qu'on leur veut. Mais en milieu urbain, ce n'est pas facile d'avoir les parents toujours à côté. C'est difficile. C'est ça la difficulté de l'éducation en milieu urbain.
En milieu urbain, c'est vraiment compliqué.
Oui, c'est compliqué.
Madame Chiari, vous voulez ajouter quelque chose par rapport
Il a touché
aux
du
propositions,
doigt.
Aux activités qu'on peut proposer aux parents pour encadrer à la fois les enfants dans ces jeux ludiques, mais aussi qu'ils aient une activité aussi constructive.
Elle a touché du doigt là où nous voulons parler. Et c'est-à-dire, il faut avoir une culture de la lecture pendant les vacances à ces enfants-là. Si vous avez suffisamment de moyens de transport, ou bien si vous avez une seconde personne qui peut vous seconder, amener les enfants dans une bibliothèque publique.
Ouais.
Avec la situation du 26 juillet, on ne sait pas si la meilleure bibliothèque, le Centre culturel franco-nigérien, si elle est encore ouverte. Sinon, le CCOG a une bibliothèque. Et il faudrait que, je dirais ça en recommandation, que l'État songe à faire un peu partout des bibliothèques publiques pour occuper les enfants là.
Ouais.
Il faudrait les amener, même s'ils ont 6 ans là, il faudrait les amener dans une bibliothèque
adaptée
à leur âge. Il y a des rayons pour enfants, il y a des places pour enfants. Leur prendre les livres, leur donner, les occuper et les faire accompagner par des grands Et pendant une heure, deux heures de temps, et les ramener à la maison. Sinon, ça peut se faire à la maison. Je l'ai dit tout à l'heure, des livres de lecture avec grosse écriture, les occuper toute une matinée.
Ouais.
Ou bien, il faudrait les amener au Makaranta. Les enfants de 6 ans peuvent
à l'école
aller
coranique.
À l'école coranique. 5-4 ans, ils peuvent aller. Il faudrait les occuper avec ces marabouts-là. Même si ça laisse à désirer des fois, il faudrait les amener. Qu'ils étudient un peu le Coran, etc. etc.
Ouais.
Et, ou bien aussi, comme il l'a dit, les tablettes, etc., etc. Ou bien regrouper les enfants du même âge dans une maison et les faire occuper par un adulte ou quelque chose comme
un
ça.
Un adulte qui va...
Les jeux de marelle, etc., leur apprendre ces jeux-là en attendant que les parents viennent.
Oui, qui va surveiller
parce que,
ses
comme
enfants.
Comme M. l'enseignant l'a dit, les parents n'ont pas le temps à Niamey. D'abord, les trucs sociaux nous occupent beaucoup. Baptême, mariage, décès. Tu as un décès, on t'apprend un autre. Tu as un mariage, on t'apprend un autre.
Ouais.
Tu as un baptême, on t'apprend un autre. Tu passes toute la semaine au bureau et à faire du social.
Et le week-end, le social.
Le social. Pas forcément, même les jours ouvrables, il y a le social. Ouais. Quand vous descendez, il faut aller présenter les condoléances à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. etc.
Ouais.
On n'a pas le temps pour la famille. Donc, je conseille qu'on se fasse seconder par une personne sûre, même si c'est un homme d'accord, mais qu'il soit sûr, qu'on ait confiance en lui.
Merci, Madame Kiari. Monsieur Banya, nous revenons vers vous.
Oui.
Est-ce que vous avez des propositions pour les parents sur des activités qui peuvent vraiment contribuer au développement des enfants?
Oui, j'ai vraiment des propositions par rapport aux activités qui peuvent rentrer dans l'épanouissement, le plein épanouissement et le développement de l'enfant.
Mm-hmm.
Parce que d'abord, le premier milieu protecteur de l'enfant, le milieu protecteur de l'enfant par excellence, le premier, c'est le milieu familial. Après le milieu familial, vient le milieu social, c'est-à-dire le voisinage, l'entourage physique. Après ça, peut-être vient le milieu scolaire. Mais comme nous sommes en train de parler de vacances, nous sommes en temps de vacances. Donc, l'enfant, pendant les vacances, il ne fréquente que deux milieux.
Oui.
Deux milieux. Le milieu familial, il évolue dans son milieu familial. D'où il doit avoir toute la protection nécessaire pour être un enfant bien éduqué. Et un enfant qu'il faut mettre à l'abri, des pratiques malveillantes.
Oui.
Maintenant, le milieu social aussi, il faut prendre des précautions. Maintenant, avec le contexte actuel, surtout en milieu urbain, où les enfants, les adultes, où les voisins n'ont pas un œil regardant sur les enfants des autres, parce que les parents sont devenus des blancs au point où maintenant les parents sont très prudents pour sermonner l'enfant du voisin. Il faut être très prudent parce que il peut en réponse, en retour, et ça peut créer des problèmes entre vous et lui. Donc c'est pourquoi moi je pense à ce niveau il faut créer des activités pour le plein épanouissement des enfants, surtout dans la famille. Parce que entre autres activités, il y a les jeux. Vous pouvez offrir des jeux à votre enfant.
Oui.
Hein? Vous pouvez vous-même, sur la base de votre expérience, leur montrer des jeux très importants qui peuvent stimuler leur intelligence. Donc vous savez leur importance et leur influence positive sur vos enfants.
Ouais.
Si vous avez les moyens, vous pouvez les transporter dans des espaces ludiques, en milieu urbain, dans la plupart, en tout cas dans beaucoup de milieux urbains, il y a des espaces qui sont spécifiquement aménagés pour que les enfants puissent se retrouver et s'amuser. Et ça éveille l'enfant et ça, ça l'amène à être en interaction avec d'autres enfants, à créer des relations avec d'autres enfants, mm-hmm. et vraiment à se sentir à l'aise et à garder des beaux souvenirs des vacances.
Oui.
Parce que c'est en fait des situations et des milieux que l'enfant les fréquente. Il peut vraiment construire un beau souvenir pour l'enfant, et jusqu'à ce qu'il soit adulte, il va se souvenir que telle vacances, on a été en tel endroit. Vraiment, en tout cas, ça joue beaucoup pour le plein expansion de l'enfant.
Mm.
Parce que avant tout, comme je l'ai dit, l'enfant est un être en développement, il est très fragile. Donc c'est à nous qui sommes les adultes de les ménager. De les éduquer dans le sens des valeurs que nous ont inculquées nos aînés et nos parents. Et ces valeurs-là, elles sont des valeurs sociales et sur la base desquelles notre société a été fondée, notre société a été bâtie, et sur la base desquelles nous, en tant qu'adultes, aujourd'hui, nous sommes des responsables à part entière, capables d'apporter notre contribution à la nation. Donc, il faudrait que ces enfants aussi emboîtent nos pas pour qu'ils soient dans le futur utiles à la nation, pour qu'ils soient dans le futur utiles à leur famille et qu'ils arrivent à se responsabiliser, à se prendre en charge sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan culturel, sur le plan éducatif.
Mmh,
ils arrivent vraiment eux aussi à être des adultes avertis, quoi.
Oui.
Et sur qui nous pouvons compter.
Mmh,
donc vraiment, c'est à nous de leur initier des activités, que ce soit des activités sportives ou des activités ludiques.
Oui.
C'est à nous vraiment de veiller à tout cela, même si on n'a pas par ailleurs les moyens de le faire. En tout cas, au regard de notre petite expérience que nous avons de la tradition des jeux traditionnels, au regard de notre petite expérience que nous avons et de notre culture éducative, nous pouvons les aider pendant les week-ends à la maison. Nous pouvons leur créer des jeux concours pour les amener à avoir l'esprit compétitif.
Mmh,
Nous pouvons vraiment faire beaucoup d'autres choses pour que nos enfants puissent être préparés à la vie future et qu'ils puissent être en mesure de contribuer au progrès économique et social du pays.
Ok, donc merci bien Monsieur Ibrahim. Là, nous allons aller pour un petit tour de table. Le temps nous est compté. Est-ce que vous avez des recommandations, une dernière recommandation pour les parents, Madame Chiari?
Oui, une dernière recommandation. Et nous devons dire durant les débats que même les colonies de vacances, là, c'est une belle solution pour tout âge. Au lieu d'aller à Dubaï, à Dakar ou au Togo, il faudrait faire ces colonies-là au Niger, pour que les élèves sachent ce que c'est que leur pays, les sites touristiques, par exemple voir Lougou de la Saraounia Mongou, Massalata, Agadez, la mosquée, Zender, le socle, sur le plan géographique et historique, etc. etc. Et à l'État de multiplier les bibliothèques.
Ouais.
Surtout pendant les vacances, l'ouverture de certaines bibliothèques, de favoriser la petite enfance, des bibliothèques pour enfants, des espaces de jeux pour enfants, comme Zabarkan et autres, des espaces où on va accompagner les enfants pendant les vacances, parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux.
Ouais.
Et chercher des gens, des encadreurs sûrs pour ces enfants-là.
Merci bien, Madame Chiari. Monsieur Boubacar, nous venons vers vous. Vous allez nous clôturer ce débat avec une dernière recommandation. Vous êtes enseignant, parent. Voilà.
Oui, bon, je crois que c'est. Je vais porter les deux casquettes, hein,
mm-hmm.
Puisque nous parlons particulièrement du milieu urbain. Hein, ce que Mme Thier a dit est valable aussi pour le milieu également.
Rural.
Rural, hein,
oui.
Parce que ce ne sont pas tous les enfants qui vont au champ. Ce ne sont pas toutes les fillettes qui aident leur mère à faire les travaux ménagers. Eh bien, puisque la possibilité existe en milieu urbain comme en milieu rural, il faudra que l'on trouve les moyens, indépendamment des voyages, voir quel type d'activité on peut proposer aux enfants pendant les vacances, pour ceux qui sont un peu plus grands, Hein, d'accord. Ensuite, pour les plus petits, ça ne manquera pas quand même d'occasion de temps en temps de les regrouper et de leur proposer, par exemple, n'est-ce pas, des cours d'instruction civique, des cours religieux, etc. etc.
Des comptes,
etc. etc. Comptes, on peut les regrouper de temps en temps et donc les occuper. Vacances. Parce que l'écran n'est pas la solution. Ça rend accro les enfants, les jeunes. Mais lorsqu'on diversifie les activités, je crois que l'on a trouvé quelque part une petite solution pour ces difficultés que nous avons à gérer les enfants pendant les vacances. Merci.
Merci bien. Merci à nos invités. Nous sommes à la fin de ce forum. Nous retenons que la période des grandes vacances est assez stressante pour les parents qui se retrouvent des fois sans beaucoup d'options pour faire encadrer leurs enfants. Et ils se retrouvent parfois impuissants face à ces écrans. Pourtant, nos invités ont souligné l'urgence, l'importance vraiment de cette surveillance parentale pour l'épanouissement, pour le développement de l'enfant. Et nous avons eu beaucoup de propositions sur ce forum, sur des activités qui peuvent être à la fois ludiques, instructives, des sorties éducatives, vraiment la surveillance des espaces de jeu, qu'ils soient face aux écrans ou qu'ils soient à l'extérieur, est importante. Donc, merci à nos invités. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Farmata Kiari. Elle est enseignante, elle est conseillère pédagogique à la retraite, elle est également maman. Nous avons eu avec nous M. Ibrahim Bagna, il est sociologue. Merci M. Ibrahim. Nous avons eu M. Boubacar Abdou, qui est enseignant, qui nous a accompagnés avec son expérience avec les enfants à l'école. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, pas de souci. Rendez-vous sur notre site internet www.studiokalangu.org ou sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu. À la technique, nous étions avec Amina Hassan.